Apprendre à coder est désormais enseigné à l'école. Et si nous ne pouvons voir cela que d'un bon œil, nous savons aussi pertinemment que cela introduit un biais. Les enfants sont rarement passionnés par une discipline scolaire, et cela en dépit des aspects ludiques et créatifs d'un Scratch ou d'un Python. Par ailleurs, un autre problème a vu le jour ces dernières années. Les ordinateurs, smartphones et tablettes font maintenant partie de notre quotidien, et de celui de nos enfants. Là aussi c'est une bonne chose, à condition que la protection de la vie privée et des données personnelles ne soit pas mise de côté, et que les réseaux sociaux ne se transforment pas en un lieu de harcèlement scolaire. Dans cet épisode, je reçois Morad et Rabah Attik. À eux deux, ils sont non seulement les auteurs de plusieurs livres de la collection Pour les Kids chez Erol, mais aussi les fondateurs d'EvoluKid, une société spécialisée dans l'enseignement du numérique auprès des jeunes publics. Ensemble, nous discutons de l'apprentissage du code et de l'identité numérique. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir m'attribuer 5 étoiles dans votre application de podcast. Ça m'aide à le rendre plus visible et à le faire découvrir par d'autres personnes. Si cela vous tente, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. C'est pour moi une vraie source de motivation, mais ça permet également à ceux qui ne connaissent pas ElectroMonkeys de se faire une idée sur le podcast. Alors, un grand merci d'avance. Les gars, bienvenue dans ElectroMonkeys.
Salut!
Salut!
Alors, je suis très content de vous recevoir. Je vous avais découvert en regardant sur Amazon les livres publiés par Erol pour les kids, parce que j'ai vu que vous aviez publié deux livres, donc un qui est sur les objets connectés et l'autre qui est des défis pour Scratch.
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ces bouquins ?
Alors, on est dans le milieu du codage. Codage, c'est une technologie qui vient d'arriver quand on les écrit... 2018-2019, ça vient vraiment d'arriver.
Dans l'éducation.
Dans l'éducation, ouais, le codage qui vient d'arriver dans l'éducation. Et l'idée, c'est vraiment de très vite pouvoir donner les outils aux enfants, montrer ces nouveaux logiciels qui arrivent dans le programme. Et nous, notre vision, c'est justement de faire en sorte que cet outil qui va être pris dans le monde de la scolarité, dans le monde de l'école, soit aussi vu d'une manière ludique. Et les livres, le but, c'est ça, c'est avec des défis, bah en fait, avec des défis, pouvoir monter en compétence sur le code. Puis en fait, on s'est pas trop planté parce que, par exemple, Scratch, on voit beaucoup d'ados qui sont réfractaires. Peut-être que ça remet encore en question la manière dont on va enseigner les choses, alors que pour nous, le code, c'est un truc vraiment, vraiment magnifique. Derrière, il y a la pensée créative, il y a la pensée informatique. Et c'est dommage que là, par exemple, les ados soient réfractaires à Scratch au collège. Donc, les livres sont faits pour ça, encore une fois. Pousser de manière ludique, montrer tout ce qu'on peut retrouver dans la science. Il y a des enfants qui trouvent leur vocation avec la science. Donc, les bouquins sont faits pour ça, quoi. Pareil pour les objets connectés, avancés par la pédagogie, par le projet.
Après, aussi, une chose super importante, c'est que c'est pas le premier livre et ni le dernier. Il y a eu d'autres livres qui ont été faits par rapport, si on prend le défi, 25 défis pour apprendre à coder avec Scratch 3. Alors déjà, c'était la nouvelle version de Scratch. Il fallait se la réapproprier, les nouvelles fonctionnalités. Mais surtout, là où pédagogiquement, on a vu qu'il fallait amener les choses plutôt sous forme de défis courts, c'est qu'on connaît bien ces publics-là, jeunes et ados. Ils ont du mal à se projeter sur un projet, sur 10 pages, 20 pages, 50 pages. Je pense qu'ils ne sont pas assez matures pour ça. Et je peux comprendre aussi, hein, on est aussi passé par là. Et cette génération a besoin de vite, tout de suite, je fais, je veux le résultat. Donc cette approche par défi, je commence doucement, un défi qui peut me prendre 5 à 10 minutes, le deuxième qui peut être un petit peu plus long, et les amener petit à petit voilà, vers de vraies compétences, et surtout des challenges, des défis courts à réaliser, avec à chaque fois une connaissance, une compétence à acquérir. Donc ça nous a semblé pertinent, et puis on ne s'est pas encore une fois planté, parce que le livre, il fait un véritable carton, il est déjà épuisé.
Ah, super cool. Et donc, du coup, de votre côté, c'est quoi les challenges aussi? Parce que j'imagine qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie pour arriver à adresser un jeune public.
Alors, après, c'est là où on s'appuie sur nos expertises à chacun. Donc moi, je suis Morad Attik, je suis le frère de Rabah, je suis son cadet. Et moi, je suis prof de maths. Donc, j'ai passé les 10 dernières années, et j'ai même envie de dire les 15, parce que quand j'étais étudiant, je donnais énormément de cours particuliers. C'était ma passion et mon gagne-pain à la fois. Donc, j'ai toujours réfléchi sur comment vulgariser cette notion, cette matière. Et quand on fait des maths, moi, quand j'ai enseigné, je passais le premier trimestre à convaincre que les maths, c'était cool et facile, et je passais les deux autres trimestres à enseigner le programme. Donc, il y avait vraiment ce challenge à faire aimer quelque chose, parce qu'on sait, même cognitivement, que quand on aime quelque chose, bah, ça rentre plus facilement. Donc, c'était plus ou moins instinctif et assez facile à vulgariser et à créer le contenu. Et après, fallait produire. Donc, il n'y a pas eu énormément de difficultés. C'était assez logique. Et surtout, ça vient aussi après 3 ans d'activité avec Evolukid, où on a testé pas mal de formats sur des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes, des jeunes et moins jeunes. Donc, je pense à Rabat, après, c'est à toi aussi d'apporter ta brique.
C'est ça, tout part de ça. Quand j'étais étudiant, moi j'ai une formation d'ingénieur en robotique. Donc, pareil, quand j'étais étudiant, j'ai enseigné et tout. Et moi, en fait, quand j'enseignais les maths, pas en étant prof, mais en étant coach, la première chose que je disais, c'est qu'on ne faisait pas des maths. Par exemple, l'objection que je donnais aux enfants qui avaient des problèmes en maths au collège ou au lycée, c'est, ouais, ou qui étaient réfractaires aux maths en disant « Ouais, mais les maths, c'est nul, de toute façon, ça ne sert à rien » ou « C'est dur, ça ne m'intéresse pas ». Je dis « Mais de quoi tu parles ? On ne fait pas des maths, là ». Enfin, on apprend à compter, en fait. J'essayais vraiment de tout de suite poser les bases en disant que ce que tu fais en primaire, au collège, voire même au début du lycée, en seconde, en fait, c'est pas des maths. Ce qui permet, en fait, de dire on parle d'un faux problème. On parle pas de... Il n'y a pas de problème. Tu es en train de désigner une matière qui s'appelle mathématiques, et à partir de là, les élèves peuvent se créer des problèmes en disant les maths, c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais, en fait, tout de suite, tu es le sujet en disant, en fait, on ne fait pas de maths, on apprend des choses qui sont très importantes dans la vie et qu'à partir de ça, ça va te servir plus tard. Et donc, du coup, c'est incontournable. Il faut vraiment qu'on arrive à acquérir ces bases-là. C'est pareil, en fait, dans les bouquins, dans les livres, c'est présenter les bases de l'algorithmique qui, demain, seront finalement des bases qui seront de fait actées, qui seront présentes dans les programmes scolaires. Il y avait le fameux lire, écrire, parler, coder, compter. Enfin, lire, écrire, coder.
Lire, écrire, parler.
D'accord ? Et maintenant, coder. Ah. Voilà. Donc maintenant, coder, ça fait partie, quand on les aligne avec lire, écrire, parler, ça fait partie des compétences de base. L'idée, c'est ça. C'est présenter un socle par le ludique et esquiver à tout prix, ça c'est un truc moi qui mais vraiment qui m'obsède, c'est ne pas tomber dans la case c'est pas intéressant, c'est ennuyant, mais parce que c'est présenté sous le mauvais angle. L'angle scolaire des fois peut être un peu ennuyant. Donc voilà. Donc c'est un, présenter des compétences qui demain seront des compétences de base, et deux, c'est tout faire pour que ce soit attrayant pour l'apprenant, pour l'enfant qui est en primaire, qui est au collège et puis même qui est au lycée, parce qu'après 25 défis pour coder avec Scratch, si on prend Arduino ou si on prend le langage Python aussi, là on est vraiment sur du langage utilisé par des ingénieurs, par des développeurs, des langages qui sont très très répandus et qui sont très importants.
Si je peux me permettre, pour les auditeurs qui nous écoutent, un petit conseil. Par exemple, si on prend le livre 25 défis pour apprendre à coder, au-delà du contenu que nous, on a transmis dans le livre, après, il y a le format que vous allez déployer avec vos enfants ou si vous êtes animateur, etc. Par exemple, moi, avec mon fils, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est pas trop coder ou je ne sais quoi. Il veut passer du temps avec son papa. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais cette activité une fois par semaine avec lui. Et de là, je passe du temps avec lui, je lui accorde du temps et de l'attention. Donc, on fait ce petit atelier autour d'un défi par semaine. Et en même temps, on évoque pas mal de sujets, on s'amuse, on rigole et on échange. Donc, tout est une question de transmission, pédagogie, etc.
C'est un bon conseil. C'est vrai qu'à l'école, alors les sujets, comme tu l'as dit, Rabat, quand c'est une discipline scolaire, on a tendance à trouver ça ennuyeux par principe.
Par principe, ouais, voilà.
Pas parce que ça l'est fondamentalement. Bon, moi, j'ai des souvenirs de ça. On apprend des choses à l'école et on trouve ça tellement ennuyeux. Et puis après, on les redécouvre par soi-même et on trouve ça passionnant, quoi. Donc, ça arrive. J'ai une question parce que tu as évoqué aussi Python, par exemple. Et c'est vrai que dans la collection où vous avez publié ces livres, dans Kerrol, il y a pas mal de livres pour les kids. Et je me suis toujours demandé, par rapport à cette collection-là, qui est une collection que j'adore, si c'était vraiment destiné qu'aux enfants. Parce que moi, alors, j'ai acheté presque tous les livres de la collection pour faire du Python. Par exemple, il y avait du Python avec du Minecraft et j'ai trouvé ça génial, quoi. Et donc, ma question, est-ce que ça s'adresse qu'aux enfants selon vous? Ou alors, vous avez une réflexion qui va au-delà, c'est de la pédagogie et finalement, ça s'adresse à un public plus vaste?
Le langage Python?
Non, en fait, la collection de livres chez
Ah
Erol.
oui, d'accord. En fait, pour moi, et je m'en suis aperçu, peut-être qu'en tant que développeur, c'était le principal de ma carrière, moi, le développement, c'est que je m'en suis bien aperçu quand j'ai découvert la première fois Scratch, c'est que j'ai fait la distinction entre l'algorithme, qui est en fait l'idée que le développeur a dans sa tête, et le langage qui est l'outil qui lui permet d'exprimer cet algorithme. Et quand on a compris ça, on a tout compris. C'est-à-dire que les enfants sont capables d'édifier des stratégies, même s'ils sont très très jeunes, hein, des enfants, lorsqu'ils sont bébés, qu'ils sont en maternelle. Moi, en tant que parent, j'ai assisté à des... Vous savez, on aide les profs en maternelle, donc on assiste à des jeux mathématiques, on voit déjà que les enfants sont stratèges. Et donc, le principe, c'est de leur donner les outils pour pouvoir exprimer leurs idées, leurs stratégies, et donc, en fait, d'implémenter des algorithmes. La différence avec la programmation par bloc, par rapport à la programmation syntaxique, comme un langage comme le Python, le C, le C++, le Java, etc., c'est que là, on ne va pas les embêter avec la syntaxe, parce que la syntaxe va constituer en soi déjà un domaine à enseigner. Il faut enseigner la syntaxe, il faut enseigner... La manière de d'écrire, ce qu'il faut pas oublier, quand on va déclarer une liste en Python, faudra tantôt des crochets, tantôt des parenthèses, etc. Donc tout ça, en soi, ça va être un problème parce qu'il faudra aussi l'enseigner. Donc du coup, la programmation par bloc, elle remplit son objectif, c'est justement de se prémunir de tout ce domaine de connaissances parce qu'il n'est pas nécessaire. Ce qui nous intéresse, c'est exploiter la capacité de l'enfant à faire des stratégies. Mais après, une fois que l'enfant, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit ingénieur, qu'il ait fait une école d'ingé et qu'il ait eu son bac pour passer au langage syntaxique. Pour moi, l'arrivée de Python en seconde, donc là, on est encore des grands enfants, 14-15 ans, elle a tout son sens. Donc là, on abandonne la programmation par bloc, on passe à un langage syntaxique. Donc ça, c'est le programme scolaire. Et encore une fois, Evolukid, nous, on a une manière de faire qui va être plutôt basée sur le ludique, sur les capacités de l'enfant. Moi, je me suis toujours posé la question au moment où j'ai fait l'offre Evolukid, est-ce qu'on la classe par niveau ou est-ce qu'on la classe par âge? Est-ce que je me dis du coup Python, c'est à partir de 14 ans ou je me dis Python, c'est après Scratch? Auquel cas, un enfant de 10 ans qui a terminé le programme Scratch, il peut aller sur Python. Ou si j'avais dit Python, c'est à partir de 14 ans, je leur dis, ah bah t'as pas encore 14 ans, tu peux pas faire du Python. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, pour récapituler, il y a les algorithmes et les langages qui sont des outils. L'algorithmique, c'est accessible à tout le monde. Et là, on a parlé de Scratch, mais on peut passer encore plus bas. Il y a Scratch Junior pour les enfants qui n'ont pas encore acquis la lecture et l'écriture. Donc là, du coup, on va toujours faire des algorithmes. Et avant ça, il y a encore d'autres outils. Il y a les BeeBot, les BlueBot, il y a Cubeto, il y a plein de robots comme ça qui permettent toujours de coder sans la lecture, sans l'écriture, juste avec tout ce qui va être symbolique, avec les couleurs, un peu comme la pédagogie Montessori. Donc du coup, si on revient sur la syntaxe, franchement, à partir de 5e, 4e, un enfant qui est passé, la seule condition que je mettrais, ça serait comprendre les concepts de base de l'algorithmique. Ce sont pas compliqués. Il y a cinq concepts. C'est les événements, c'est les structures de contrôle, les conditions, les boucles, etc. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on a joué avec ça, avec des outils justement de programmation par bloc, franchement, cinquième, quatrième, on est prêt à attaquer Python sans attendre la seconde. Donc pour moi, oui, là, carrément, la collection, elle est vraiment faite pour les enfants, pour les kids.
Oui, mais elle est faite pour les enfants, ce qui n'exclut pas les ados, les jeunes adultes et les parents. Parce que justement, elle a cette vertu de démystifier, vulgariser ces concepts-là. Donc moi, en tant qu'adulte, et d'ailleurs, c'est la même question problématique auquel se confronte EvoluKid, parce que initialement, on a eu adressé un public enfant. Ensuite, les grands frères et les grandes sœurs de ces enfants se sont intéressés. On a créé des contenus pour eux. Donc, on a adressé des publics ados et jeunes adultes. Ensuite, les parents se sont intéressés. Et donc, en fait, cette question de démystifier et de vulgariser des notions, est-ce que...
Elle concerne, ce que tu veux dire, c'est qu'elle concerne en fait tous les publics non initiés à la technique.
C'est ça.
Oui, par prolongation.
Effectivement. Et ça sécurise.
Ce que dit Morad, le but, c'est pas de dire que c'est fait aux enfants dans le sens où c'est fait que pour les enfants. Moi, je pense que aussi la position des éditeurs, c'est de proposer par l'angle des enfants, proposer à tous les publics qui veulent s'intéresser au codage. Et puis après, pour prolonger ce qu'a dit Morad, c'est aussi les mêmes pédagogies qu'on va utiliser avec des collaborateurs en entreprise. Qui n'ont pas ce bagage technique.
Finalement.
L'objectif va être différent. Ça va pas être de leur apprendre le code, mais ça va leur permettre, par exemple, de pouvoir comprendre ce que font d'autres équipes qui sont plus tech. Ça peut être aussi l'objectif d'un chef de projet ou l'objectif de l'entreprise.
On va un peu approfondir cette partie-là, mais alors ça me rassure un peu parce que moi je suis ni un jeune adulte ni un enfant. Donc, savoir que je peux utiliser les bouquins, ça me rassure. Et justement, j'allais poser cette question, c'est en quoi, par exemple, un langage comme Scratch, alors si on a passé 14 ans, on ne peut plus s'en servir, ou alors ça a quand même des vertus et ça peut enseigner quelque chose même à un autre public qui a des enfants.
Oui, totalement. Alors déjà, avec Scratch, en fait, moi, ce que je réponds à, par exemple, à des ados au collège qui font du Scratch que sous l'angle de l'école, l'angle de la vision un peu scolaire, et qui vont dire « Ah, c'est Scratch, ah, mais on a déjà fait, on fait ça à l'école », déjà, tout de suite, moi, la manière de répondre, c'est de leur montrer, par exemple, un jeu très abouti, comme une bonne scène de Street Fighter ou de Mario qu'on a codé en Scratch. Et là, dès qu'on montre un petit peu le code, on voit qu'il y a plein de blocs et qu'il faut réfléchir. Donc, bien sûr, c'est facile de prendre le bloc, de le mettre, faire un drag and drop et de poser. Ça, ils ont compris ça, que c'était très simple. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, tout part de l'algorithme. Scratch, finalement, c'est qu'un seul outil. Donc, bien sûr, après 14 ans, un adulte, un lycéen peut très bien utiliser Scratch pour surtout s'il n'a pas encore commencé à coder. Et là, je vais plutôt m'adresser aux adultes. Commencer par Scratch et puis essayer de faire quelques applications, c'est un très bon outil pour commencer. Et comme l'a dit tout à l'heure Morad, C'est bien de le faire quand on est parent, carrément, de prendre... En 2-3 heures, on a compris, on peut faire des animations. Donc, ça nous permet, du coup, d'utiliser aussi le bouquin, de manière à faire des activités par enfant. Voilà.
Et dans la pratique, on le voit, de toute façon, dans toutes les formations de pour former des médiateurs numériques, pour même les formations... type école 42 pour apprendre pour le coup du vrai code. En général, les premières séances, ils montrent ces outils-là, tels que Scratch, pour faciliter la compréhension des algorithmes et du codage. Et ça marche bien.
Ouais, moi, je le fais en école d'ingé. Ouais. Je le fais que la première séance, mais je le fais. Ouais.
Et donc, vous avez décidé de créer une boîte autour de l'apprentissage du code, si je comprends bien, qui s'appelle EvoluKid.
C'est ça.
Alors, dites-moi un peu plus sur ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer? Quelles étaient vos motivations?
Alors, l'historique d'EvoluKid, elle est sous-jacente, ou c'est la continuité d'une autre boîte qu'on avait avant qui s'appelait Scolarius, qui est du coaching scolaire. Donc, on n'est pas parti très très loin dans le domaine. On est resté dans l'éducation. On a toujours été passionné par ça. Rabat par les technologies, moi par la pédagogie. Et vice-versa. Donc, du coaching scolaire, on s'est intéressé à tous les programmes en cours et on a vite anticipé le fait qu'il allait y avoir un changement. Donc là, on était en 2015. Et le changement, les programmes scolaires, c'était en 2016-2017 et vraiment effectif en 2018. Et après, l'anecdote qu'on raconte, c'est que tout simplement, un jeune qui est en décrochage scolaire, parce que dans le coaching scolaire, l'idée, c'était d'aller chercher aussi des jeunes en difficulté, pas que des catégories sociales aisées à qui, en général, s'adressaient les cours particuliers. On proposait une offre accessible plus ou moins à tout le monde. Et on tombe sur un cas d'échec scolaire assez lourd, qui ne voulait pas faire de maths, et de français et d'anglais. Et Rabat lui propose un stage, nous rejoindre pour faire son stage, parce qu'il était en bac pro. Donc il passe un mois dans nos locaux. Et Rabat le prend un petit peu sous son aile et le fait coder. Et du coup, il fait du... Je ne sais plus, c'était du C++ ou du C, ouais. Ou je ne sais plus. Et le petit, il accroche, parce qu'en fait, il était beaucoup devant l'écran. On lui a proposé de passer derrière l'écran, de comprendre ce qu'il faisait sur son ordinateur, à jouer aux jeux vidéo. Il a beaucoup accroché. Durant ce moment-là, il a développé un jeu. D'ailleurs, là, actuellement, il est dans une école de programmation aux États-Unis. Et j'ai regardé mon frère, je lui ai dit, écoute, on devrait proposer des stages d'informatique. Même moi, je me suis dit, un peu ce que tu viens de faire, mais plus facile et plus vulgarisé. Et c'est là que Rabat, tu tombes en faisant des recherches. On parle de 2016, avant la démocratisation et puis le fait que Scratch soit...
C'est-à-dire que en C avec un élève de 16 ans, c'était un petit peu juste, déjà parce que le C, c'est plus complexe que le Python. Moi, j'étais un fan du C. J'ai créé une formation en C déjà qui était sur Internet, etc. Je voulais commencer avec le C. Et puis, en fait, je me suis dit, mais ça ne va pas être possible, évidemment, pour les collégiens et encore moins pour les primaires. D'enseigner un langage syntaxique, que ce soit le C ou le Python. Et après, je suis tombé sur Scratch, qui finalement, il y avait déjà la version 1, il y avait la version 2, mais il y avait déjà la version 1, qui datait même de 2008 ou 2009, je crois, du MIT. Et puis là, révélation. J'ai compris tout de suite qu'avec un langage par bloc, ça allait être vraiment beaucoup plus simple. Et ludique, ouais. Et aussi qu'on allait descendre de 10-15 ans facilement en âge. Et que du coup, après tout s'est déroulé très vite. La semaine d'après, on a fait les premiers ateliers avec Scratch.
Comme d'autres avant vous, n'hésitez pas à soutenir ce podcast sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, vous bénéficiez d'un accès anticipé aux épisodes et vous pourrez jeter un œil aux coulisses virtuelles du podcast. Rendez-vous sur patreon.com/electromonkeys. Vous partez du coaching scolaire. Donc là, on en est quoi? Aux alentours de 2016, toujours sur du coaching scolaire. Comment ça a évolué par la suite?
2014 à 2016, ouais, coaching scolaire.
Ensuite, comment ça a évolué? On a été parmi les trois premières startups en France à faire coder des gamins. Donc, c'était assez révolutionnaire. On a été deux fois incubé. On a gagné un prix d'une startup innovante en Ile-de-France. Et ensuite, le business model au départ qui était d'ouvrir des centres pour proposer des offres aux familles, qui commençait timidement à se développer. On a été contacté par beaucoup de collectivités qui étaient très sensibles à proposer des nouvelles activités tout simplement aux jeunes. Moi, j'étais aussi, avant d'être prof, j'étais beaucoup animateur jeunesse, donc je savais très bien ce qu'on proposait. Et on voulait quelque chose d'autre, on voulait du ludique, mais aussi de l'éducation, au-delà de jouer au baby-foot, de faire des parties de foot, etc. Et là, on était très sollicité par les collectivités. Ensuite, les grands groupes se sont aussi intéressés à la question, dans un premier temps d'abord pour les enfants de collaborateurs, ensuite pour des activités par enfant et aussi pour les collaborateurs. Et donc après, on s'est essentiellement dirigé sur des projets, finalement B2B. Et comment on décrit Evolukid?
Ouais,
justement. Et comment on décrit Evolukid maintenant? C'est qu'en fait, on est des concepteurs de contenu. On crée des contenus et des scénarios qu'on va implémenter pour résoudre des problématiques dans des collectivités, des grands groupes.
En B2B, ouais.
Donc en B2B.
Et puis toute cette expérience nous amène à la création de cette fameuse plateforme de contenu et de parcours pédagogique dont l'ambition véritablement, ça va être de proposer une offre pour la famille. Là, telle qu'elle arrive, on va l'affiner au fur et à mesure pour la compléter avec l'offre B2B. Mais là, notre objectif, c'est vraiment de proposer une offre pour la famille qui va répondre à deux choses. Un, proposer des contenus autour du numérique et des sciences. Et deux, c'est considérer les enfants comme des apprenants, mais aussi les parents. Donc, on va pouvoir faire des applications des activités parents-enfants, former les ados, donc à partir de 11 jusqu'à 18 ans, là, on va considérer les ados et les jeunes adultes pour les former sur ces langages techniques, technologiques, tels que Python, le C, le C++, le développement de jeux, de web, d'applications mobiles, avec le C-Sharp aussi, tout ce qui va être aussi le montage vidéo. Et avant 11 ans, on a les jeunes qui vont apprendre justement l'algorithmique avec Scratch. Et avant, bien avant, on va être sur des activités parents-enfants. Et on n'oublie pas les parents. On n'oublie pas les parents parce que déjà, nous, on est parents. On comprend un petit peu l'équation dans laquelle on est avec le numérique. C'est une équation à plusieurs paramètres. Il y a comprendre la réforme scolaire parce que les programmes ont changé. Il y a maintenant, là, en France, il y a la réforme du lycée. Donc, les filières S, E, L ont sauté. Donc, comment je fais pour orienter mes enfants et m'outiller? Parce que du coup, avant, pour s'orienter, des fois, si les parents s'intéressent, ils mettent leur nez, ils disent « Ah bah tiens, va en S, va en L, en fonction de tes compétences. » Mais là, du coup, il faut aider les parents à y voir plus clair. Pour y voir plus clair, on a considéré qu'il fallait les acculturer. Un vernis de connaissances. C'est quoi les data sciences? On parle d'intelligence artificielle, c'est quoi? On parle de blockchain, de crypto-monnaie, c'est quoi? Quels vont être les métiers du futur? Scratch est arrivé, c'est quoi Scratch? Python est arrivé en seconde, c'est quoi? Voilà. Répondre à ces questions-là, mais il y a aussi, à l'intérieur d'un foyer, je pense qu'on souffre tous de la dépendance aux tablettes, de l'identité numérique. On se pose des questions, contrôle parental. Donc, il y a aussi des tutos pour les parents dans cette plateforme pour les aider à prendre des bonnes décisions, à s'organiser, à aussi mettre des règles. Hein. Le numérique, il est très intrusif, que ce soit au niveau du hardware ou au niveau du software, c'est pareil. Le hardware, c'est les tablettes, c'est les écrans, c'est hyper intrusif et on est très vite dépendant. Les neuroscientifiques l'ont largement prouvé. Au niveau du software, c'est pareil, en fait, que ce soit les jeux. Il faut arriver à outiller les parents là-dessus, donc on ne les oublie pas sur cette plateforme. Et on a l'ambition de faire vraiment un Netflix de parcours pédagogique. Là, on arrive à une dizaine, bientôt une quarantaine au bout de l'année, qui vont répondre à tous ces enjeux, à tous ces enjeux qu'il y a au sein d'un foyer. Voilà.
J'ai une question parce que j'ai eu l'occasion de recevoir les animateurs d'Evox for Kids, et pour eux, ils trouvaient que leur public, malheureusement, ils le regrettaient un peu, c'était souvent des enfants de gens du métier. Donc, les gamins qui venaient apprendre à coder, c'était beaucoup des enfants d'informaticiens, de développeurs, etc. Est-ce que votre public arrive à être plus large que ces personnes-là?
Oui, largement, et on a de tout. On a des gens qui comprennent pas ce qu'on fait, mais qui comprennent que c'est important. Et on a des gens qui comprennent ce qu'on fait et comprennent que c'est important.
Et l'autre point qui me pose question, c'est justement de se dire que comment on accompagne les parents, sachant que je suis peut-être informaticien et j'ai peut-être envie que mes enfants apprennent ce métier-là, seulement moi je ne suis pas pédagogue. Alors comment ça se passe un peu ces ateliers pour comment on aide les parents à encadrer les enfants dans ces ateliers?
Alors il y a donc nous ce qu'on propose, c'est qu'il y a deux choses pour rebondir aux deux dernières questions. Les collectivités nous sollicitent, donc on va intervenir vraiment au cœur, en fait sur le terrain, au cœur des quartiers. Si on parle de population, on va intervenir dans des quartiers, différents quartiers. Hein. Ça peut être des quartiers UP en fonction des collectivités, comme ça peut être des quartiers très défavorisés. Donc on va toucher différentes cibles, tout simplement. Ces cibles-là, ensuite, y a les parents avec qui on peut échanger à la fin de l'atelier. Et on va, en présentiel, en physique, on va leur expliquer ce que les enfants ont fait, pourquoi c'est important, pourquoi il faut télécharger le logiciel Scratch à la maison qui est gratuit, etc. Et les parents sont très réceptifs, même dans des zones dites populaires, fragilisées, des quartiers de banlieue, appelez ça comme vous voulez. On veut tous, en tant que parents, la même chose. On veut l'épanouissement de l'enfant et la réussite, bien sûr, scolaire et bien orientée. Ensuite, pour accompagner et outiller le parent, c'est là qu'on s'est dit que depuis 5 ans, on a créé énormément de contenu, parce qu'on est des créateurs de contenu, que ce soit à travers nos deux livres. Et d'ailleurs, je tease la sortie du troisième livre sur l'intelligence artificielle par l'art pratique aux éditions Erol dans la série que tu aimes bien, qui sortira en mois de février, d'ici un mois. Parenthèse refermée.
On aura déjà un lecteur.
Ah, bah, super. Parenthèse refermée. À tous les contenus qu'on a créés et les sollicitations de nombreuses familles suite à nos interventions au cœur des quartiers, ou en tout cas, on allait chercher les gens là où ils le sont, dans les centres sociaux, les bibliothèques, les centres de loisirs, etc. Et bah, on a créé du coup une plateforme sur Evolukid, hein, evolukid.com. Donc le Evolukid en ligne, c'est deux choses. Des classes virtuelles, on inscrit son enfant pour qu'il fasse une fois par semaine un atelier de codage en ligne. Et pour un abonnement, autour de 10 euros par mois, on a une dizaine, une vingtaine, une trentaine de parcours. Moi, je suis en tant que père de famille, j'ai plusieurs enfants. Et bah, ça va répondre à la fois aux plus petits, à l'ado, à moi-même en tant que parent. Et donc, on va justement outiller l'enfant, l'ado, le jeune adulte et le parent à des niveaux différents et qui vont répondre à leurs besoins. Donc, à la fois sur des outils, puis sur aussi tout ce qui est connexe à ça. C'est ce qu'on disait. L'orientation. On va créer voilà, du contenu pour alimenter et puis pour qu'ils puissent savoir quelle voie s'offre à eux. Sur aussi bah, tout ce qui est prédiction aux écrans, on fait pas mal de sensibilisation et de prévention aussi. Sur le harcèlement en ligne, par exemple. Comprendre comment ça fonctionne et comment y faire face.
Ça, c'est le parcours, on va dire, d'évolution par rapport au coaching scolaire. Par contre, j'ai vu aussi sur votre plateforme que vous adressiez également aux entreprises. Quel est le format de ce que vous proposez aux entreprises?
Alors, l'entreprise, il y a deux ou trois volets. Il y a l'entreprise qui veut des projets internes au sein de l'entreprise et il y a l'entreprise qui fait des projets externes au sein de la société. Par exemple, on va parler de manière plus concrète avec des projets qu'on a menés, je pense que ce sera plus parlant pour vous, chers auditeurs. Et donc, si on prend le Maïf Numérique Toi, donc comme son nom l'indique, c'est un projet qu'on a fait avec la Maïf, très engagé sur les questions de l'éducation, donc autour du numérique et Tours. On a fait en fait 3 ans une tournée nationale à travers un big truck, un gros camion, un peu comme C'est pas sorcier si ça vous parle. Et donc le camion, c'était incroyable, hein, il se déployait, c'était une surface intéressante de 50 mètres carrés. Et pendant 3 ans, on a reçu plus de 150 000 personnes pour 2 missions, éduquer au numérique et faire de la prévention. Donc ça, c'est la Maïf qui fait plutôt un projet externe. Okay, nous, on a créé les contenus, on a animé tous les ateliers, etc. D'autres entreprises, ils vont plutôt nous solliciter pour des projets internes. Alors, ça peut être soit de l'événementiel, hein, aussi, le classique Family Day. À L'Oréal, on a constitué tout un pôle digital pour leur événement annuel où les parents et les enfants faisaient voilà, pas mal de défis autour du digital, donc double message. Comment on sensibilise les enfants et comment on lance un message aussi aux parents sur le digital. Et puis d'autres projets où c'est plutôt à destination des collaborateurs, où on veut les initier. On a fait voilà, des formations simplifiées au code à des chefs de projet pour qu'ils comprennent mieux ce que font les équipes IT, par exemple. Donc voilà, c'est assez varié.
C'est assez intéressant. Ce point particulier, c'est de se dire qu'on peut enseigner des rudiments, comme le disait Rabat, peut-être un vernis, au moins pour permettre de comprendre, quand on est chef de projet, les difficultés auxquelles sont confrontées les équipes.
Carrément. Sur les très très grosses entreprises, sur des problématiques de transition digitale, même des nouveaux métiers en interne qui sont apparus, ça s'appelle la conduite du changement. Faire pivoter une grande entreprise avec nouveaux outils internes, des nouveaux métiers, l'apparition des data scientists, avec des nouvelles infrastructures IT, les bases de données ont changé, maintenant sur le big data on va utiliser de nouvelles technologies, ça nécessite des fois d'avoir les développeurs et les techniciens, mais ça nécessite aussi de sensibiliser les autres pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que aussi la donnée va être, il va y avoir des nouvelles données, elles vont être utilisées de manière différente. Et donc, même les fonctions support vont être concernées au final. Donc, il faut à la fois les éduquer, au sens où il faut un petit peu les mettre dans cette marche en avant, mais il faut aussi les éduquer pour aussi les rassurer. Parce que pour certains, le numérique peut faire peur, et puis le numérique pose des problèmes, des appréhensions, que ce soit sur le remplacement des métiers, etc. Et donc, du coup, dans le cadre en fait, de la transition digitale d'une entreprise, avant de faire des formations, on est déjà dans des ateliers où l'idée, c'est de présenter, d'acculturer et de montrer. Voilà. Et ça peut concerner tout, on va dire, toutes les fonctions, à part les techniciens, quand je dis les techniciens, je parle des gens qui sont plus dans la maîtrise de la technologie, dans l'implémentation de la technologie. Donc, ça peut concerner énormément de personnes autour de la technique.
On a parlé d'une plateforme d'un côté et puis aussi de beaucoup d'ateliers qui peuvent être donnés, donc aussi bien aux enfants qu'aux entreprises. Qu'est-ce que cette année 2020 a changé pour vous, sachant que le présentiel n'était pas évident à faire? Est-ce que vous avez fait un pivot? Est-ce que vous avez poussé sur le côté plateforme plus ou quelle était votre réaction?
Oui, alors en fait, la plateforme a été initiée, l'idée, toujours les idées, on les a, après dans les startups, il faut trouver le temps de les implémenter, mais la plateforme, elle avait commencé en juin-juillet 2019, véritablement, même si l'idée, elle était d'avant, on savait qu'on accumulait des contenus, donc on voulait les organiser, puis on avait déjà aussi des plateformes dans d'autres domaines. On avait testé une application lorsqu'on faisait du coaching scolaire, on avait déjà une application en ligne et tout. Donc déjà en 2014-2015, on était en mode plateforme. Et après Evolutid, ça avait surtout démarré par des prestations physiques, par des ateliers physiques, par du workshop. Donc la question de la plateforme était dormante et elle est revenue, j'ai enfin réussi à la mettre en œuvre avant le Covid en fait. Le Covid, évidemment, a accéléré. Ça nous a permis de nous recentrer. Sur cette activité, sur notre activité aussi. Il y a eu le confinement, il y a eu le redéconfinement en été, donc ça nous a aussi resollicité sur notre organisation. Comme on a eu le temps aussi de se recentrer, donc on a aussi pas mal travaillé en juillet-août, hein, parce que avec le déconfinement, toutes les vacances étaient annulées, les enfants avaient besoin d'activité, donc les villes étaient très très demandeurs. Et puis voilà, là on s'adapte avec les deux manières de proposer notre savoir-faire à l'heure actuelle. Et puis, on suit de très près toutes les décisions de confinement, reconfinement qui se jouent à l'échelle nationale en France.
D'un point de vue pédagogique, il y a une grosse différence entre donner du contenu en ligne et du contenu en présentiel. Qu'est-ce que vous avez appris, justement, de passer en contenu en ligne? Qu'est-ce que ça change pour vous et quels sont les challenges que vous rencontrez par rapport à ça?
Alors, c'est une très bonne question. C'est effectivement le en ligne, bien qu'il peut faire peur, mais il y a deux en ligne. Il y a le en ligne en autonomie, quand on est abonné à une plateforme et puis qu'on consulte nous-mêmes les outils, on est responsable de sa proactivité, du fait d'avancer. Donc là, on va, nous...
C'est ouais. Pourquoi je me permets, Rabat, si tu me le permets, bien sûr. C'est pour ça que pour les contenus en autonomie, ce sont des contenus courts. C'est très important. Les contenus courts qui sont digestes et qui nous permettent ensuite, à travers des quiz, de tester nos connaissances. Je t'en prie, Rabat, je te laisse continuer.
C'est pour ça, voilà, c'est la raison pour laquelle, en fait, sur la partie en autonomie, on a misé à fond sur l'ergonomie.
C'est ça.
Voilà.
C'est
ça. On a misé à fond sur l'ergonomie, c'est-à-dire ce qu'a dit Mourad, des contenus, comme il a dit, qui ne sont pas trop longs, mais aussi la manière dont ils sont montés. Par exemple, on a des enfants acteurs, ça joue. On a une possibilité de s'auto-évaluer, etc., pour fidéliser et surtout permettre à l'apprenant de pas s'ennuyer et puis d'avancer. Après, donc du coup, il y a le en ligne qui va être en accompagné. Là, on tombe sur la fameuse classe virtuelle. La classe virtuelle, le but, c'est de pouvoir se retrouver quasiment dans des conditions de classe physique. Entre le whiteboard où on peut faire des démos, le partage d'écran. Si on est en petit comité, Peut-être qu'en classe virtuelle, on ne pourra pas reproduire les conditions physiques avec des classes de 25. Mais d'ailleurs, est-ce que le modèle des classes de 25 est un bon modèle? Il faut aussi se poser la question. Mais en petit comité, donc de 6 à 12, et puis avec aussi une personne qui va s'occuper de la technique pour ceux qui n'arrivent pas, qui ont des petits bugs, ce qui va permettre aux profs de continuer et de rester concentrés sur le contenu, avec toutes les fonctionnalités qu'offrent des plateformes, je ne vais pas citer les noms, mais qui sont très avancées, on retrouve une qualité pédagogique qui est assez optimale. Et donc nous, on a des classes virtuelles pour apprendre à coder, où on arrive, on a déjà d'excellents retours, hein, donc ce qui nous permet de prendre la mesure de l'efficacité de l'outil, ça dépend aussi de la qualité d'animation, mais on a d'excellents retours et les enfants, justement, veulent continuer. Donc, ça prouve que c'est une pédagogie qui est aussi efficace que le présentiel, en tout cas pour les classes virtuelles.
Si vous avez une question, une suggestion ou que vous voulez tout simplement réagir sur un épisode, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @K8Monkeys. Et comment vous itérez techniquement par rapport à vos retours d'expérience?
C'est-à-dire comment on itère?
Entre les premières classes virtuelles que vous avez pu donner et celles que vous donnez maintenant, il y a peut-être des choses qui ont changé parce que vous avez appris beaucoup d'être passé au virtuel et de la manière de le faire. Parce qu'il y a une grosse différence. On a beau être habitué à avoir une classe en présentiel, quand on passe en virtuel, c'est pas du tout la même façon de procéder. Et j'imagine que ça vient pas naturellement et que tout de suite on a les bonnes idées, la bonne manière de faire quand on n'est plus en présentiel. Donc comment vous êtes adapté au fur et à mesure du temps? Quels changements vous avez pu apporter à votre pédagogie en distanciel?
Nous c'est plus sur le plan de la technique, c'est-à-dire par exemple mettre une deuxième personne pour gérer les retardataires. Quand on est en présentiel, on gère ça naturellement. Un enfant arrive en retard dans une classe, on lui dit attends 2 minutes, je termine avec eux et puis je viens te voir et puis après on prend 5 minutes avec lui. Mais en fait, quand on transpose ça en virtuel, en classe virtuelle, comment on le gère? Donc l'idée, ça a été de comprendre ça et de pouvoir le formaliser pour donner les bons outils aux intervenants. Comment réagir, comment gérer ces cas et aussi comment se comporter en classe. C'est-à-dire quel ton adopter, etc. Donc ça, effectivement, c'est des formalismes pédagogiques qu'on transmet à nos intervenants, parce qu'il y a une pédagogie, on voudrait que ce soit fait d'une certaine manière, pédagogie évolutive, pour que ce soit attrayant, etc. Après, il faut être beaucoup dans l'échange, ce qui permet de garantir le taux d'attention des élèves. Et là, on voit finalement que ça peut être même mieux qu'une classe en présentiel, où on n'est que sur du simple duplex, c'est descendant en fait. Je revenais sur des notions de télécom, full duplex, mais désolé pour la parenthèse, mais c'est trop descendant. En classe virtuelle, ce qu'on veut, c'est que ce soit en fait interactif. Donc du coup, on a schématisé ça un peu comme une espèce de fonction carrée. En fonction carrée, on a lorsque on a la prise de parole de l'élève. Et lorsqu'on est en bas, en creux, un peu comme une vague, hein, en haut, c'est le prof qui est actif, et en bas, l'élève est plus réceptif. C'est ce qui veut dire qu'il va inviter les apprenants à participer. En fait, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a consolidé ça. On a plutôt consolidé ça au fil des semaines, mais ça s'est fait rapidement. Mais par contre, ce qui était déjà prêt, c'est l'approche. L'approche en niveau. Par exemple, Scratch, on a créé des niveaux 1, 2, 3 qui vont se baser plus ou moins sur le livre. Arduino, par exemple, les buts, c'est d'évoluer vers une indépendance où on va créer nous-mêmes des objets connectés. On va créer un robot autonome, mais un vrai robot. C'est-à-dire avec vraiment, je vais chez le Roi Merlin, j'achète des planches ou sinon j'ai un kit avec du bois à assembler. Et donc, pour arriver à ça, il y a Arduino niveau 1, où je vais maîtriser les bases de l'électronique, etc. Après Arduino niveau 2, je vais commencer à m'intéresser à la partie dynamique, le moteur. Pareil pour Python, pareil pour la création de jeux. Ça c'était conçu. Et après, il faut une bonne pédagogie, une bonne organisation pour que les élèves et les familles y voient assez clair et puissent puissent concevoir leur projet à travers notre plateforme.
Alors, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a fortement intéressé. Enfin, tout ce que tu as dit m'a intéressé, mais je veux dire, sur lequel j'ai envie de rebondir aussi, c'est que tu as mentionné qu'il y avait des points positifs, finalement, à faire ça en distanciel. Aujourd'hui, on a dû tous passer travail à la maison pour les raisons du Covid, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché aux points négatifs dans les interactions. Par contre, tu me dis que tu as trouvé aussi, d'un point de vue pédagogique, des points positifs à ça ?
Oui, oui, pour moi, il y a des points positifs. Et même je vais aller un peu plus loin. Je vais reprendre un petit peu des anecdotes de potes qui sont chefs de projet. Franchement, entre nous, le travail à distance, même quand les gens sont en téléprésentiel, ça permet, et on ne va pas se mentir, ça permet de détecter les glandeurs dans les grosses boîtes. Parce que du coup, là, on donne clairement, on n'est pas là, il y a un point à 16 heures, on donne une feuille de route, des objectifs, et tu fais. Tu ne peux pas te cacher dans la boîte, aller boire 15 cafés dans la journée, etc. Et donc, moi, je suis un petit peu cash là-dessus, mais après...
Il ne va pas se faire que des amis, Rabat.
non, mais après, les gens se reconnaîtront ou pas. Mais là, on est organisé, on n'est pas là, chacun prend ses responsabilités, et on avance, et on a un point, et chacun présente ce qu'il a fait. C'est un peu sous cet angle-là. Je parle plus en tant que chef de projet. Même quand j'étais consultant, j'ai été dirigé par des chefs de projet, j'ai dirigé des équipes. Donc, je me suis posé la question de comment va se passer ce téléprésentiel. Moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas d'appréhension avec le téléprésentiel, mais à une condition, c'est qu'on est... Le télétravail, pardon. Merci. Donc, mais à une condition, c'est que derrière, il y a une réflexion sur le planning, sur les objectifs, et après que derrière, il y ait bien un diagramme de Gantt de qui fait quoi et que les sources soient bien au courant de ce qu'il y a à faire. Bah, en fait, si je transpose ça en classe virtuelle, les enfants, ils sont autonomes et ils sont acteurs. Premier point positif qu'on a vu, et là, ça nous a vraiment impressionné, c'est la prise en main de l'outil informatique. Je parle surtout pour les 8-11 ans. Les parents, ils étaient très, vraiment très contents que les enfants arrivent à ouvrir un dossier, faire un copier-coller, naviguer et rechercher des informations. Alors, après 11 ans, ce n'est pas vrai. Mais pour les 8-11 ans, les enfants ont développé la dextérité avec la souris pour pouvoir être autonomes. Donc, nous, on était là pour faire des classes virtuelles. À la fin, les parents étaient contents de la maîtrise de l'ordinateur. Après, c'est la responsabilisation. Lorsqu'on donne la parole aux enfants, bah, du coup, il faut qu'ils aient quelque chose à dire, etc.
Devant
tout le monde. Donc, la prise de parole aussi en public, etc. Le fait de montrer. Et surtout, c'est des 8 jusqu'à 15 ans, montrer ce qu'on a fait pour les enfants, c'est très, très valorisant. Ils sont vraiment très contents. Et ça, par rapport au présentiel en classe, ouais. À part quand il passe au tableau, et là, même s'il va montrer, il ne va pas montrer ce qu'il a fait devant les élèves. Il va répondre à une demande du professeur. Ah, viens, montre-nous, fais l'exercice. C'est plus vécu, peut-être pas comme une punition, mais comme une obligation. Il ne va pas s'épanouir à ce moment-là. Et donc, du coup, là, on est dans de la pédagogie par projet. Les enfants montrent ce qu'ils ont fait et on les responsabilise. Ils acquièrent des compétences en informatique. Donc, moi, je vois beaucoup de points positifs.
Si je reviens un instant sur Evoluquid aussi, de combien de personnes est composée votre équipe aujourd'hui ? Parce que pour l'instant, il y a vous deux, mais j'imagine que vous n'êtes pas que deux aujourd'hui.
Alors, on est... Du coup, je disais qu'on était 10 dans la startup et on a une bonne trentaine d'intervenants sur le terrain qu'on sollicite au projet, que ce soit des professeurs en activité, soit des étudiants en fin de cycle, des médiateurs numériques, des formateurs, des facilitateurs, voilà.
Et parmi ces personnes, alors les 10 personnes qui font partie de la start-up, c'est quoi ? C'est des personnes qui sont chargées de la création de contenu, de faire tourner la plateforme, toutes ces choses-là ?
Entre autres,
on a plusieurs pôles en fait.
On a plusieurs pôles, effectivement. On a un pôle marketing digital parce qu'on crée des contenus, c'est bien. Maintenant, il faut les montrer avant même de vendre, hein, il faut les rendre visibles. Ensuite, on a bien sûr une assistante de direction. Et puis, je comprends, ouais, Rama.
Un pôle création de contenu et un pôle montage vidéo, avec un studio en interne.
C'est ça. Trois pôles.
Ok. J'avais bien entendu, vous avez des enfants acteurs. Les cours que vous faites en vidéo, c'est vraiment de, je vais pas dire du cinéma, mais c'est vraiment bien orchestré, c'est scripté.
C'est ça, voilà. C'est qu'on a un process, en fait. C'est que, un, c'est scripté. Du script, on fait le tournage. Après, c'est monté pour que ce soit maximum attrayant et pédagogique. Donc, on met des illustrations, on explique. À partir du moment où, face caméra, on explique un processus, bah, on met toutes les illustrations qui vont avec, etc. Et après, du coup, c'est mis en plateforme sur une page. La page, elle est habillée, donc elle est wordée. Le QCM est ajouté. Et là, on arrive à un parcours prêt à être diffusé. Et après, bon, en fait, avant ça, évidemment, il est testé. On a des retours. Et après, on l'optimise. Et après, les mis en production.
Et cette question de mettre en scène des enfants, en fait, c'est de la pédagogie pair à pair, tout simplement. C'est que bah, c'est dans l'air du temps. Un enfant est beaucoup plus sensible au fait qu'il y a un enfant comme lui, et puis ça va plus le motiver à le mettre en action. Alors que quand c'est classique et descendant, donc c'est l'adulte qui explique à l'enfant. C'est pas la même portée ensuite. C'est pas la même portée. Et c'est pas le même passage à l'action.
D'où vous est venue l'idée de mettre en scène des enfants?
Une question. Sur la pratique.
C'est à cause de YouTube, ça.
C'est ça.
Non, mais. Alors, en fait, c'est un concours de circonstances. Bah, déjà, on a des enfants qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et puis des fois, quand on communique sur les réseaux sociaux, on montre un petit peu ce qu'ils font. Ensuite. Moi, j'ai remarqué que bah, les enfants, ils consomment beaucoup de vidéos YouTube où ils voient des enfants en train d'ouvrir, simplement ouvrir des paquets cadeaux, des choses comme ça. Il y a des chaînes qui sont très, qui ont enfin des millions d'abonnés là-dessus. Et si ça fonctionne, c'est pas par hasard. Je pense qu'un enfant, après cognitivement, c'est vrai. Un enfant, il va être plus attentif à un enfant à peu près de son âge qui est en train de faire quelque chose, qui explique quelque chose. Et ça va avoir un impact sur sa rétention. Qui va être supérieur à quand c'est un adulte, parce que l'adulte, il peut être perçu un peu de manière biaisée, comme son parent, son professeur, comme une espèce de directive. Et du coup, ça peut influer sur son attention. Et en fait, l'apprentissage, c'est quoi? C'est l'attention multipliée par le temps. L'enfant, il a du temps. Et puis, il faut juste bah, investir l'attention. Et donc, on a décidé d'utiliser cette approche.
Ok, alors j'ai une dernière question pour vous. Quelles sont les prochaines étapes pour Evolukid?
C'est de continuer à proposer ces deux formats. Pour nous, c'est important. On ne veut pas être 100% numérique. C'est un peu à la mode 2020, 2021. Surtout, le Covid est venu mettre un accent dessus, il faut que tout le monde soit digitalisé à 100%, etc. Nous, on fait du présentiel, ça marche très bien. On se nourrit d'ailleurs du présentiel pour faire du en ligne. Et ça a été ça peut-être notre force, c'est que on a proposé une offre en ligne 4 ans après avoir testé et éprouvé nos comptes sur le terrain. Donc on veut continuer à proposer ces deux formats-là, intervenir sur le terrain, aller rencontrer des gens, discuter, échanger avec eux, et ensuite proposer des parcours en ligne. Ensuite, en termes d'ambition, on intervient principalement en Île-de-France et sur demande partout en France, voire on a fait deux projets en Afrique, en Guinée-Conakry, avant le Covid. On est même parti au Luxembourg, d'ailleurs, à la demande de la Société Générale. Mais l'idée, c'est de s'étendre effectivement sur tout le territoire français pour 2021.
Et du point de vue de la vision, en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, avec l'outil qu'on propose, c'est d'investir encore plus les questions du numérique pour aider les familles, les populations à mieux comprendre ce qui nous attend. On n'est qu'au début de cette ère du numérique. Il y a des technologies qui arrivent avec leurs grands sabots. Il y a l'intelligence artificielle qui va révolutionner plein de services. La blockchain avec les crypto-monnaies qui vont peut-être changer notre manière d'acheter, de payer les choses. Vous savez, en Chine, on paye avec son smartphone. Maintenant, on parle de comptes de crypto-monnaies, de wallets, de plein de choses comme ça. Ensuite, il y a peut-être dans 15-20 ans, moi, j'entends parler d'informatique quantique. Donc, c'est encore des super ordinateurs qui vont permettre encore d'autres choses. Mais du coup, nos enfants, maintenant, qui vont être les acteurs du numérique aujourd'hui, comment on les aide aujourd'hui, et nous aussi, comment, en tant que parents, on essaye de comprendre ça. Et comprendre, ça ne suffit pas. Il y a comprendre, mais il y a aussi, entre guillemets, se défendre contre le numérique. Il faut le voir aussi d'un œil méfiant, il faut s'interroger. Je ne parle pas de méfiant pour refuser, mais en tout cas, il faut s'interroger sur son identité numérique, sur les données. La data va être au cœur des problématiques dans les 5-10 prochaines années. Comment on informe les gens, les parents, comment on sensibilise, voilà. Et il y a plein de questions voilà, que j'évoquais tout à l'heure. On peut même aller jusqu'à l'identité numérique qui, elle, va aussi ouvrir, par exemple, la question du harcèlement scolaire, etc. Donc tout ça, voilà, nous, notre rôle, notre ambition, notre vision, les prochaines étapes, c'est d'investir ces questions-là pour aider les gens.
Super. Rabah, Morad, merci beaucoup. Ça a été super intéressant.
Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Electrobanqué. Pareil, super moment avec toi. Très, très bonne question. Et puis, au plaisir. Merci à tous.
Retrouvez Rabah et Morad sur Twitter @RabahAtik et AtikMorad et Evolukid sur evolukid.com. Si cet épisode vous a appris quelque chose ou simplement diverti, je serais ravi que vous en parliez autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Merci à Data Essential de soutenir ce podcast et à la semaine prochaine.